franceinter.fr.
CO2 mon amour, avec Ocofen, chaudière à granulés de bois, chauffage central écologique et économique. Rendez-vous sur ocofen.fr.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans la vie ?
L'écologie.
Et dans l'écologie, la diététique ?
C'est passionnant, ça.
Vous connaissez la doctoresse Kousmine ?
Non.
C'est un génie.
Et la macrobiotique ?
Ça, oui, un peu. Et qu'est-ce qu'ils disent, ces gens-là ?
Ils disent qu'on mange de la merde.
CO2, mon amour. Denis Chessoux.
Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission qui empêche de polluer, de réchauffer, de penser en rond, en tout cas qui essaie, avec aujourd'hui Pierrick Monsigny et Guillaume Roux à la technique, et assisté de Stéphane Combe, c'est Christophe Imbert, oui, qui réalise les émissions avec les cris de cochon. Allez, une petite humeur. À quand un téléthon pour nos EPR ? Eh bien, la question se pose car l'inflation effectue son grand retour, au moins du côté de Flamanville. L'EPR, notre chaudière nucléaire nouvelle génération qui doit éclairer le monde, eh bien, se faisait discrète depuis le drame de Fukushima. Mais là, difficile cette semaine de passer sous silence ce budget qui explose une nouvelle fois. Bon, vous me direz, tant que c'est que le budget qui explose, on s'en tire plutôt bien. Les rallonges en matière d'électricité, on connaît également. Deux nouveaux milliards supplémentaires sont convoqués d'urgence. Deux autres avaient été réclamés en juillet 2011, après une estimation à 4 milliards en décembre 2008. Bon, pour un chantier qui, au départ, était évalué à 3,3 milliards, l'addition devient au moins aussi salée que l'eau de mer sollicitée pour refroidir le réacteur. Et en 5 ans, eh bien, on dirait que la progression est plus connaître. Hein. Nous sommes en effet passés de 3,3 milliards à 8,5 aujourd'hui, soit une multiplication par pratiquement 2,5. Au Scrabble, EPR, c'est presque un mot qui compte triple. Alors vous me direz, oui, je sais, c'est une tête de série, c'est le début, etc. Mais c'est au moins un domaine qui ne connaît pas la crise, ou plutôt qui va faire tout pour l'ignorer. Car qui paiera le surcoût ? Un généreux mécène, 50 gagnants à l'euro million, ou bien l'abonné à EDF que nous sommes. L'électricité, d'ici au moins 5 ans, on le sait, aura augmenté de 30%. Enfin, on le sait, mais vous êtes bien de le rappeler. Soyons honnêtes, hein, c'est pas seulement pour cause d'EPR mal évalué. Non, non, il y a d'autres raisons. Je sais que rebaptiser l'EPR énergie passablement ruineuse est facile, mais ce nouveau dépassement ne remettra pas en cause le projet, comme l'aurait dit Margaret Thatcher, « There is no alternative ». Et oui, vous le savez bien, l'opposition entre le nucléaire et la bougie reste un thème inusable, mais auquel croient de moins en moins nos compatriotes, surtout avec un coût du mégawatt presque aussi cher que certaines éoliennes. Remarquez bien, avec 2 milliards d'euros de dépassement, cela nous fait quelques kilos de bougies, de quoi illuminer la totalité des sapins de France et de Navarre. Allez, joyeux Noël! Et on va commencer par une petite actualité, il va venir en deux fois. Bonjour Jean-Marie Pelt.
Bonjour.
Vous allez bien Jean-Marie ?
Oh, très bien, je vous écoute.
Bon, vous êtes dans la neige en Lorraine ?
On est dans la neige qui fond.
Oui, bah, bah, c'est ça.
Ça donc, fond vite.
Donc vous avez arrêté le ski de fond, quoi. En fait c'est ça.
Ça, oui.
Dans votre jardin.
Oui, oui, il n'y a pas de ski de fond.
Alors dans l'actualité, c'est un sujet en fait, que vous connaissez depuis un certain temps. J'allais dire, France, la qualité de ton sperme fiche le camp. Le spermatozoïde made in France, on l'a aussi vu cette année. Sa concentration donc, a baissé d'un tiers entre 1989 et 2005. Donc c'est une étude française hein, de l'Institut de veille sanitaire avec l'INSERM. Alors on sait qu'il y a des causes d'obésité, de tabagisme, mais qu'est-ce que cela vous inspire aussi aujourd'hui ?
J'ai vu cette étude, elle m'a effrayé parce que le nombre de spermatozoïdes dans le sperme descend encore plus vite que je ne le croyais, puisque une perte d'un tiers en 16 ans, c'est quand même un chiffre qui donne à rêver. Alors, il n'y a pas que ça, il y a aussi le fait que les spermatozoïdes sont moins, entre guillemets, entreprenants et que beaucoup sont peu mobiles. Et c'est ce qui fait que les fécondations sont souvent plus difficiles et que, par conséquent, comme le disait tous les tout derniers jours la présidente d'un congrès de gynécologie auquel je suis invité, la stérilité masculine augmente. Alors elle augmente de à peu près 1% par année. Et aujourd'hui, ben, les gynécos savent que quand ils ont un problème de stérilité, il ne faut pas songer qu'à la femme. Il faut songer aussi à l'homme et à ses spermatozoïdes.
Alors, on parle de perturbateurs endocriniens,
oui.
Oui, et aussi de pesticides, d'ailleurs.
Tout à fait. Alors, ce sont des molécules qui ont effectivement pour particularité d'être en cause dans cette réduction du nombre des spermatozoïdes. On le sait depuis 1991, quand le professeur Tjekkelbeck, qui est un Danois, a montré ce phénomène. Il a été extrêmement critiqué au début. On l'a traité d'hurluberlu, mais vous savez, c'est ce qui arrive quand on a une découverte importante. Ça a été confirmé ensuite par de nombreuses études, et maintenant on sait qu'un certain nombre de molécules, comme les fameux PCB, comme les bisphénols, et comme de très nombreux pesticides, sont sans doute à l'origine de ce phénomène inquiétant.
Jean-Marie, on vous retrouve dans quelques instants, vous allez comprendre pourquoi, parce que nous avons notre rédactrice en chef qui est avec nous, qui s'appelle Jérôme Pasteur, garantie sans pesticides. Bonjour Jérôme Pasteur.
Bonjour Denis.
Alors, je suis ravi de vous recevoir, vous revenez avec un nouveau livre qui s'appelle « Femmes, oiseaux » au pluriel, et bien sûr on va en parler aux éditions Bellefond. Mais juste pour vous présenter rapidement, je dirais que vous n'êtes ni savante, ni scientifique, mais vous êtes une curieuse du monde, et vous nous avez fait découvrir une partie de l'Amérique du Sud. Alors certes, vous aimez le Jura, hein, c'est votre lieu. Vous aimez la compagnie des arbres, des cours d'eau et des lynx. Dans la famille Pasteur, il y avait Louis et son équipe qui aimaient travailler sur l'infiniment petit, sur les microbes, les levures. Et puis chez vous, Jérôme, eh ben, on aime l'infiniment grand, la terre. Alors, ça a été, quand vous étiez gamine, un stage de voile au Glénan. Passion de la mer, Madagascar, l'Afrique, le Brésil, le Pérou en 84. Et là, vous atteignez, un peu par hasard, un village d'Indiens, les Achaninka. Et là, c'est le coup de foudre. Donc, vous restez avec votre cœur jurassien, mais réparti maintenant avec une âme indienne, avec ce peuple donc, d'Amazonie. À quel endroit sont-ils, nos Achaninka ?
Ils sont au Pérou, ils sont dans les contreforts des Andes, dans la cordillère de Vilcabamba. Ouais. Alors, c'est du côté est des Andes. Et après cette cordillère, c'est les plaines du Brésil. Mmh. Et cette cordillère est entre le fleuve Apurimac qui coule au pied du Machu Picchu, et l'autre côté, le Tambo est né, il a plusieurs noms.
Combien sont-ils ?
Ils sont d'abord sur un très très grand territoire, 30 000, 40 000, ça ne va pas que du Pérou à la cordillère de Vilcabamba, on passe la frontière, on passe sur le Brésil, sur le Pérou. Donc quand on parle des Achaninka, il ne faut pas parler de façon générale parce qu'il y a des régions très différentes d'autres. Il y a même des ethnies Achaninka, je dirais des branches Achaninka qui ne se comprennent pas, elles ont la même racine, ce sont tous des Arawaks pré-andins. Mais des fois, ils ne se comprennent pas. Tellement c'est de vastes territoires, ils sont répartis sur des forêts différentes et des fleuves différents.
Mais leur point commun, c'est quand même l'unicité avec la terre. C'est-à-dire que ce sont donc des gens qui se considèrent appartenant à cette terre et non pas en train de se dire « la terre nous appartient ».
Ah ben, unicité des Achaninka, mais allons plus loin, unicité de tous les peuples premiers. Et même, moi je dirais, je vais même inclure mon grand-père, quelque part, unicité de nos anciens aussi. C'est-à-dire que nous, l'homme moderne, on se pose en conquérant du monde, on se croit les propriétaires de la terre, alors que le peuple premier, la Chaninka, et mon grand-père, eux se savaient fils de la terre, fils et fille de la terre. C'est l'immense différence. C'est la différence primordiale entre eux et nous. Parce que sinon, on se ressemble énormément. On est des êtres humains. Mmh. On est des êtres humains identiques, avec nos défauts, nos qualités, notre désir d'évolution. Mais ça, c'est quand même une différence de poids.
Alors, nous avons choisi quel thème, puisque vous êtes rédactrice en chef de cette émission, Jérôme Pasteur.
Mais moi, j'ai envie de parler du quinoa, parce que le quinoa, c'est la quinine, donc ce qui nous aide à nous défendre du paludisme. Et beaucoup de mes amis en forêt sont, bien sûr, victimes du paludisme,
aussi. Ça, c'est le premier thème. Ça va être traité par Jean-Marie Pell dans quelques instants.
Oui. Et puis, la petite hydroélectricité. Moi, je trouve que c'est magique. C'est magique de voir comment des gens se battent dans de petites centrales produisant de l'électricité au fil de l'eau. Je parle de petite hydroélectricité.
On ne parle pas des grands barrages, on est bien d'accord.
Non, absolument pas. Justement, on pourra en parler parce que c'est exactement le contraire. Et puis, ces barrages qui sont là depuis... moi, je me suis entendu dire qu'il y a des barrages qui sont là depuis 1000 ans, qui font partie de l'histoire, de notre histoire humaine, qui sont aussi un héritage du passé. C'est important parce que finalement, l'électricité est née de l'hydroélectricité. Et puis, enfin, il y a beaucoup de choses à dire.
On remerciera jamais Aristide Bergès, père de la houille blanche, d'ailleurs.
Oui, et puis, il y aura peut-être des choses à dire sur lui. On a peut-être des détracteurs, parce que lui, il a voulu mettre ça dans des canalisations. Voilà. Donc, ça, c'est peut-être justement... Je ne connais pas exactement le problème. Je ne peux pas vraiment vous... Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que surtout, la petite hydroélectricité participe au bien collectif. C'est important de
alors
le dire.
Alors ça, on va y revenir. Et enfin, troisième sujet, si on a le temps.
Ah ben, le troisième sujet, les lynx au-dessus de chez moi. Donc je retape une maison de mon grand-père dans le Jura. Et j'ai la grande chance, non pas de voir les lynx, ils sont sauvages, ils sont timides, mais de voir à cette époque, là, dans la neige, on a 50 cm de neige en ce moment, de voir les empreintes des lynx qui viennent boire à la rivière.
Oui, c'est parce magique. Que pour les voir, c'est assez compliqué.
Très, très
même,
difficile. Hein. J'ai eu deux fois face à moi une biche, une biche de chevreuil, complètement affolée dans les bois, qui arrivait sur un sentier face à moi. Elle avait un lynx derrière elle. Donc, le lynx n'a pas aimé ma présence, donc il a pas attrapé le chevreuil, mais je peux vous dire qu'elle a dû passer tout près. Donc, le lynx aussi était tout près de moi.
Alors, Jean-Marie Pelt, lui aussi, était tout près de nous. Premier sujet donc, choisi par Jérôme Pasteur. Si on parlait un peu du quinquina, on va parler de la malaria, du paludisme. Racontez-nous cette histoire, s'il vous plaît, Jean-Marie.
C'est une extraordinaire histoire. C'est une sorte de roman. En 1633, les Espagnols sont déjà naturellement en Amérique du Sud. Un religieux, un capucin, soigne la femme du vice-roi du Pérou, donc de ce personnage éminent qui représentait le roi d'Espagne en Amérique du Sud. Elle le soigne de la malaria. Et le bruit se répand très rapidement en Espagne qu'on avait trouvé un médicament miracle pour soigner la malaria, puisque la vice-reine, la femme du vice-roi, a été guérie. Bon, ça c'est la légende. Dans la réalité, ça se passe pas comme ça. Mais dans la réalité, ce qui se passe, c'est que probablement les jésuites présents là-bas ont découvert que les Indiens avaient en main un excellent médicament qui est de l'écorce d'un arbre qui s'appelle le quinquina. Et les jésuites en font leur gagne-pain et ils ramènent en Europe ces écorces de quinquina. Le cardinal des jésuites est mandé à Versailles pour soigner un petit garçon qui allait devenir le fameux Louis XIV. Le petit garçon guérit, sinon nous n'aurions pas eu de Louis XIV, et puis là, mystérieusement, un Anglais doué pour les affaires s'empare du médicament que les jésuites avaient gardé secret, sans dire d'où il venait. Cet Anglais s'appelle Talbot, il devient immensément riche, il se débrouille pour que les écorces de quinquina lui viennent entre les mains, il soigne beaucoup de monde, et Louis XIV, impressionné, lui achète son secret, avec cette clause qu'il ne le révélera qu'après la mort du dit Talbot. Alors Talbot meurt assez jeune, Louis XIV divulgue le secret, et alors il se passe quelque chose d'assez extraordinaire, c'est que le dernier fils vivant de Louis XIV est soigné avec cette poudre. Mais personne ne savait d'où venait cette foutue poudre. On savait seulement que ça avait l'air de venir d'Amérique du Sud. Alors il y a eu...
Alors en fait c'est originaire de l'Équateur.
Oh, c'est originaire de l'Équateur, du Brésil, enfin de toute la partie orientale de la cordillère des Andes.
Alors, juste quand même petite, puisque nous avons donc Jérôme Pasteur, on se soigne, les Achalinka se soignent aussi pour...
Ils se soignent par les plantes, hein, pour beaucoup de choses, mais je ne pense pas qu'on ait de quinquina dans la région, justement.
Oui, non. Allez, il n'y en a pas beaucoup. Alors c'est une plante, c'est un grand arbre dont on utilise l'écorce. L'écorce est amère. La réputation autrefois, c'était que les amers soignent la fièvre, ce qui reste vrai aujourd'hui, bien sûr, pour l'aspirine, par exemple. Et on va chercher l'arbre, puis on finit par trouver l'arbre. Après des péripéties extraordinaires que je raconte dans mon livre « La médecine par les plantes », on découvre l'arbre et on écorche les arbres, mais on les écorche tellement qu'ils vont disparaître.
Oui.
Alors, un des pères de l'écologie, Humboldt, qui voyage en Amérique du Sud, découvre les arbres et constate qu'on est en train d'épuiser la ressource, la réserve, et formule des vœux pour qu'on soit très prudent dans la gestion de ces écorces. Donc il pensait déjà comme à l'écologie d'aujourd'hui. Mmh. Et puis alors, les arbres ont produit des graines, on a planté ces graines en Inde, aussi en Indonésie. Il y a une concurrence entre les Anglais et les Hollandais, Inde et Indonésie, et on s'aperçoit, oh horreur, que les graines donnent de pitoyables quinquina et des arbres qui contiennent presque pas de quinine dans leurs écorces. Alors l'histoire se termine par un Indien qui revend un secret à propos du quinquina à un marchand de laine qui s'appelle Ledger. Le Ledger a donc des graines venant de l'Indien. Il veut les vendre à Londres sur le marché. Bizarrement, ça n'intéresse pas les Anglais, mais ça intéresse les Hollandais. Et les Hollandais vont se mettre à planter des arbres venant de ces graines. Et le miracle se produit, et ces arbres produisent énormément de quinine. Voilà. Alors ça continue comme ça, effectivement, parce que la quinine a fini par provoquer des résistances chez le parasite qui donne le paludisme. Donc on a fait des produits de synthèse. Le plus connu, c'est la chloroquine ou la primaquine. Et puis ces produits, effectivement, ont petit à petit perdu de leur efficacité parce que les parasites sont devenus résistants.
Mais au départ, Jean-Marie, quand on parle de la malaria, ça signifie le mauvais air. Donc c'était le mauvais air qui était issu des marécages.
Absolument. Et c'était la très mauvaise réputation des marécages autrefois. Il a fallu attendre le traité de Ramsar, où j'ai été, sur la Caspienne, en 1971, pour qu'on inverse les croyances en matière de marées.
Et qu'on s'intéresse aux zones humides.
Et qu'on propose maintenant, effectivement, de protéger ces zones parce qu'elles ont une biodiversité très riche, parce qu'elles épurent l'eau et parce qu'elles abritent une biodiversité aussi très importante, y compris d'ailleurs beaucoup d'oiseaux migrateurs aux nicheurs.
Jérôme Pasteur.
Mais vous ne nous avez pas parlé du moustique, parce que tout ça passe quand même par le moustique. C'est important
Le moustique est le vecteur du Plasmodium, qui est la petite bestiole unicellulaire qui est la cause de la maladie.
Qui est le parasite.
Et effectivement, il y avait les moustiques dans les marécages.
Mais attendez que qu'on comprenne bien, c'est que le moustique, c'est le transporteur du parasite.
Le transporteur du parasite.
D'accord.
Et quand le moustique vous pique, dans le sang du moustique, il y a le parasite. Et le parasite file dans votre sang à vous. Et alors se déclenche la crise de paludisme.
Vous avez attrapé des tas de trucs, vous, Jérôme Pasteur?
Des tas de trucs, j'en ai vu toutes les couleurs.
Et soigné par les plantes
Soigné un petit peu comme je pouvais là-bas, surtout des fièvres dont vous devez, auxquelles vous devez survivre, parce que sinon j'ai failli passer 2-3 fois avec des fièvres qui n'avaient pas de nom d'ailleurs, parce que c'est ou un palu ou autre chose. Il y a des tas de fièvres tropicales qui n'ont toujours pas de nom, qui naissent et qui meurent à chaque instant. Hein. Comme on parle de dingue, les dingues, il y a des tas de sortes de dingues différentes. Et c'est toujours curieusement véhiculé, souvent par le moustique quand même, ce fameux moustique.
Bon, et donc nos Achaninka, j'imagine qu'ils ont une pharmacopée naturelle assez incroyable.
Ils avaient, parce que maintenant, malheureusement, avec des contacts de plus en plus nombreux avec la société occidentale, le premier mauvais point négatif du contact avec la société occidentale, c'est qu'on leur offre la honte, la honte de ce qu'ils sont. Bon, pas moi évidemment, pas nous pour la plupart ici en Europe, mais chez eux. Dans leur propre pays, d'autres ethnies, les gens qui issus du métissage ont très facilement la faculté de les traiter pour des moins que rien. Et ça a pour toute première conséquence, donc la honte et la honte de leur tradition, la honte de ce qu'ils sont et les plantes et toute la magie de leur médecine ancestrale est en train de disparaître à cause de cette honte sociale qu'on leur colle sur le dos.
Alors on va poursuivre ce voyage avec vous, Jérôme Pasteur. Merci beaucoup Jean-Marie. On vous retrouve bien sûr très prochainement dans cette émission. Et je vous propose maintenant d'écouter Louis Chédid qui a fait une belle chanson qui s'appelle « Si Madame Nature a les nerfs ».
Ça swing sur le plancher des vaches, dégueulasse, le temps qu'il fait, les portes claquent, les volets tremblent, les tuiles dégringolent. On se croirait en avant, volatile, quadrupède, fond le gros dos, immobile dans la pinette. Faut dire qu'au niveau météo, tout fout le camp. Depuis quelque temps, des précipitations inédites, inondations historiques pour la fonction publique, EDF, chemin de fer. France Télécom, Air Inter, c'est l'enfer. Si Madame Nature est en pétard, c'est peut-être parce qu'on lui en a trop fait voir, qu'on a tendance à oublier qu'elle a une très grosse personnalité. Si Madame Nature a les nerfs, qu'elle remue ciel et terre, c'est peut-être qu'elle n'apprécie pas la manière dont on la considère. Si Madame Nature pète les plombs, c'est qu'elle a ses raisons. Faut dire tous ces cargos qui dégagent, c'est fort et qu'on ratiboise. Elle doit trouver sa nasse. C'est vrai qu'on la traite comme des rustres, que depuis l'illustre, ça fait une sacrée ardoise. Détergent, hydrocarbures, déchets nucléaires, c'est sûr, ça peut déplaire. Si Madame Nature est en pétard, c'est peut-être parce qu'on lui en a trop fait voir, qu'on a tendance à oublier qu'elle a une très grosse personnalité. Si Madame Nature a les nerfs, qu'elle remue ciel et terre, c'est peut-être qu'elle n'apprécie pas la manière dont on la considère. Si Madame Nature pète les plombs, c'est qu'elle a ses raisons. C'est qu'elle a ses raisons. C'est qu'elle a ses raisons.
Moi, j'aime me lever tôt, avec la lumière, aller pisser, dehors, contre un arbre, et l'embrasser.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Oui, vous avez reconnu Jean Rochefort qui a toute sa place dans cette émission. Nous sommes en direct avec Jérôme Pasteur qui vient d'écrire « Femme oiseau ». Alors, au pluriel, tout cela aux éditions Belfond. Donc, c'est un roman, mais bien sûr, on vous retrouve complètement dedans. Hein. L'héroïne, Héloïse, c'est complètement vous.
C'est un roman vérité.
On va dire c'est un roman vérité. Donc, on est aussi sur la piste des Achaninka. On rencontre les guerrieros du Sentier Lumineux. Alors, ce n'est pas un roman dédié à l'écologie, hein, qu'on soit très clair. Moi, j'ai pris le prétexte. Enfin, non, mais ça y est. Mais enfin, voilà,
C'est quand même présent à toutes les pages. L'écologie du cœur, je dirais, l'écologie spirituelle, oui. L'écologie. Si, si, quand même. Si.
Alors, donc c'est ça, donc c'est cette histoire où on part avec vous dans cette jungle très très haut.
Ben pourquoi un roman vérité, donc, et pourquoi pas une autobiographie comme plus souvent je l'ai déjà fait? Ben parce que lors d'un des événements, un événement primordial de l'histoire, j'étais pas présente. J'étais pas là, donc j'ai pas pu dire je, puisque j'ai pas vécu ce moment de l'histoire qui est raconté dans ce livre. Mais les Indiens là-bas, ma famille.
On a juste envie de savoir lequel c'est, ce moment de l'histoire.
C'est l'attaque du Sentier Lumineux, voilà. En pleine forêt au Pérou, donc la cordillère du Vilcabamba. L'attaque du Sentier Lumineux qui a fait 7000 morts dans les rangs des Achaninka le long du Rio Ené, des milliers d'orphelins, et puis dont les Achaninka parlent encore aujourd'hui et qu'ils essaient encore aujourd'hui d'oublier. Ils ont bien du mal. Mais bon, l'histoire n'est pas que ça. L'histoire, on retrouve tous les gens que vous avez aimés. Si des gens qui ont lu Chaveta, qui ont lu Achaninka et Sur les rives de ma vie, retrouvent tous les mêmes personnages avec des noms différents.
Parce que Chaveta, c'est le papillon et c'est le nom que vous.
C'était
votre
mon
nom
premier
indien.
Ouvrage. C'était mon nom indien, c'est le premier ouvrage et les gens se rappellent beaucoup de Chaveta. Ah oui. Donc on retrouve tous les personnages de Chaveta. Et puis surtout, on parle de choses essentielles. Il s'agit de l'histoire de ce peuple, de l'histoire de ces gens-là. Géographiquement parlant, je connais tous les pouces du terrain. Parce que même si je n'étais pas lors de ce moment dramatique de l'attaque du Sentier Lumineux, les Achaninka dans ce roman prennent un chemin, un sentier, se sauve à travers la cordillère par un chemin qu'on avait réouvert ensemble un an auparavant. Donc je connais aussi ce qu'ils ont souffert pendant cette histoire et durant la fuite. On l'avait souffert un an et demi avant. Et ils m'ont dit des années plus tard, si tu n'avais pas désiré faire cette expédition, passer d'un côté à l'autre de la cordillère de Vilcabamba, si tu n'avais pas réouvert cette route ancestrale que nous, on avait complètement oubliée depuis des générations, on n'aurait pas pu survivre, on n'aurait pas pu se sauver. On est passé, m'ont-ils dit, sur la mémoire de tes pas.
Femme oiseau.
C'est voilà. Joli.
Alors, on va poursuivre donc nos différents sujets. On a donc évoqué cette malaria et cette quinine. Maintenant, on va s'intéresser à la petite hydroélectricité. Alors ça, c'est très intéressant, parce qu'on connaît évidemment les grands barrages. Juste quelques chiffres, on ne va pas vous abreuver. Mais quand même, la production électrique française, c'est 570 TWh. Dedans, vous avez entre 50 et 70 TWh, autrement dit entre 12 et 15%, ça dépend des années, ça dépend de la pluviométrie, ça dépend de la neige, qui correspond à l'hydraulique, donc est la première énergie, on va dire, renouvelable chez nous en France. Et on a donc aussi dans ces 12 à 15% une petite hydroélectricité. Alors ça va être variable selon les uns et les autres, mais qui correspond à 2 à 3%, on va dire, de la production électrique. Donc on va parler de celle-là. Et nous avons en ligne Philippe Baran, qui est directeur du pôle éco-hydraulique à l'ONEMA, qui est l'Office national des des eaux et des milieux aquatiques. Bonjour Philippe Baron.
Oui, bonjour.
Et vous travaillez aussi à l'Institut de mécanique des fluides. Ça, c'est intéressant à Toulouse et on comprendra très très bien pourquoi. Peut-être d'abord une petite définition, s'il vous plaît, donc de cette petite hydroélectricité. J'ai donné les grandes lignes, mais pour vous, qu'est-ce que c'est la petite hydroélectricité ?
Alors la petite hydroélectricité, donc, ce sont des installations qui n'ont que le nom globalement, puisque ça concerne en fait des installations de moins de 10 000 kilowatts, c'est-à-dire un peu l'équivalent de 5 000 maisons équipées de panneaux photovoltaïques. Donc on voit quand même que c'est des installations relativement conséquentes. Alors évidemment, là-dedans, il y a un panel assez important. On va depuis les petites centrales électriques qui produisent 30 000, 40 000 kilowatts par an. C'est à peu près la consommation de 60 maisons, 60 foyers. Donc ensuite, on a les petits moulins. Donc ça, c'est dans les rivières de plaine avec des petits barrages donc qui produisent aux alentours de 200, 300 000 kilowatts par an. L'équivalent de 450 foyers à peu près à alimenter. Donc ces petites installations sont vraiment réparties essentiellement des cours d'eau de plaine. Puis ensuite, on passe à des installations plus conséquentes. On rentre dans la micro-centrale, donc avec des installations qui ont des productions de l'ordre de plusieurs centaines de milliers, voire des millions de kilowattheures par an, hein, jusqu'à donc ces fameuses grosses installations de 10 000 kilowattheures installés. Et là, ce sont des choses avec des barrages de 3, 4, 5 mètres de hauteur sur des rivières plus conséquentes et qui peuvent turbiner plusieurs dizaines jusqu'à une centaine de mètres cubes d'eau par seconde. Donc c'est un panel très très large d'installations qui couvre l'ensemble du territoire. C'est évident que quand on va s'intéresser au rapport entre les enjeux d'environnement aquatique et de protection des espèces des milieux aquatiques et cette production d'énergie renouvelable, il faut trouver un point d'équilibre. Et le point d'équilibre, il n'est pas forcément sur les toutes petites installations hein, qui vont avoir une trace environnementale finalement plus importante que vis-à-vis de la production qu'elles sont capables de réaliser. Et les points d'équilibre seront probablement, en termes d'intérêt, plus sur des installations de niveau médian, donc de la micro-centrale de plusieurs centaines de milliers de kilowatts.
Il faut arbitrer, on l'a bien compris, entre la protection des rivières, et on va bien comprendre aussi cela à travers, on va dire, des directives européennes qui se télescopent un petit peu. Ce que je vous propose, justement, comme vous abordez ce sujet, c'est d'écouter un homme que j'ai rencontré sur la Dordogne, donc, qui s'appelle Guy Pustelnik, qui est biologiste de formation, qui est spécialiste de l'eau, puis amoureux évidemment de son cours d'eau de plus de 470 km, et qui dirige Epidor, qui est une structure qu'il anime à Castelnau. Et Epidor gère les différents utilisateurs, donc les différents intérêts, et souvent contradictoires, sur la Dordogne. Donc voilà, quel est son avis sur la petite hydroélectricité, puis après nous aurons un avis évidemment différent.
J'allais dire, qui dit microélectricité, dit barrage, dit turbine, dit retenue d'eau, même si elles sont peu importantes, et donc dit obligatoirement perturbation morphologique, hydraulique, écologique. C'est un problème qui doit être analysé dans deux directions. D'abord, effectivement, est-ce que ça apporte réellement une plus-value en matière énergétique ? Par rapport aux grands ouvrages, la réponse est non. Ça n'est que marginal. Alors, bien évidemment, ça contribue à une certaine forme d'économie. Une économie individuelle, ça c'est une réalité. Mais en face de ça, l'autre réalité, c'est la perturbation écologique que ces microcentrales amènent. Surtout lorsqu'il s'agit d'implantation de nouveaux barrages. Parce que quand même en France, il y a énormément de cours d'eau qui ont déjà été harnachés. Il en reste somme toute assez peu. Hein, c'est ce qu'on appelle les réservoirs biologiques. Ça ne pullule pas dans ce pays. Je prends l'exemple de la Dordogne. On n'en a pas énormément encore à préserver. Donc de nouvelles installations seraient, me semble-t-il, néfastes, car irréversibles. Moi, c'est le caractère irréversible qui me choque le plus dans cette affaire-là. Donc peu d'énergie en plus, beaucoup de perturbations environnementales. Je ne suis pas convaincu que le jeu en vaille réellement la chandelle. Alors, on nous parle bien sûr de nouvelles turbines qui seraient moins nocives pour le poisson.
Le poisson, il n'aime pas les turbines.
Mais dans tous les cas, le poisson, il n'a jamais aimé les turbines. Donc, chaque fois qu'il y a un barrage, il y a des perturbations liées aux variations de débit, liées à la sédimentation, au vidange. Mais ça restera toujours marginal par rapport à la grande hydroélectricité.
Et en plus, il y a un double discours. Il y a celui de l'énergie verte. Et puis, l'autre discours, c'est aussi de maintenir le bon état écologique d'une rivière. Et si on installe effectivement de nouvelles turbines, On n'est pas dans les clous de ce côté-là.
Mais d'un côté, il y a la directive cadre européenne que tout le monde nous encourage à travailler, et donc avec le bon état écologique et surtout la morphologie des cours d'eau. Alors d'un côté, on nous encourage à détruire des seuils, on nous encourage à redonner de la liberté aux cours d'eau. Bon, ça, c'est la DCE. Et de l'autre côté, on nous dit il faut développer une énergie dite verte. Moi, là-dessus, je m'oppose un peu à cette notion d'énergie verte. La présence d'un barrage sur un cours d'eau, ça n'a rien de vert. Alors, que l'eau soit renouvelable, ça, je ne peux pas le nier. Ça, c'est une vraie réalité. Mais la notion d'énergie verte, c'est quand même de l'industrie, c'est quand même du lourd sur un cours d'eau et ça perturbe évidemment l'environnement.
Alors, la petite hydroélectricité, vous l'avez compris, c'est notre mini-dossier, c'est notre mini-débat. Déjà, vous l'avez commencé à le dire tout à l'heure, mais Jérôme Pasteur, pourquoi vous avez choisi ce thème?
Parce que j'habite dans un village où il y a j'aime pas le mot micro-centrale, ça fait ça tout mini-mini, j'ai l'impression que c'est pas du tout mini, cette histoire. Ce monsieur parle très bien de l'histoire, mais il nous force à croire à une marginalité de l'affaire. Je ne suis pas du tout d'accord non plus. Enfin, moi, je ne connais pas tout le sujet. Mais j'ai quand même entendu dire, de façon assez sérieuse, que c'était très important pour la régulation sur réguler le réseau, qu'en fait, ça limitait les pertes de transport, parce que quand il y a une petite centrale, une petite hydroélectricité dans un village, ben, il n'y a pas de distribution interminable sur les lignes de l'électricité, des choses comme ça. Donc, j'ai l'impression que, parlons du rapport à l'utile. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a un meilleur rendement de conversion entre l'énergie primaire, qui est fabriquée dans la centrale, et cette même énergie vendue tout de suite aux clients. Moi, je trouve que c'est absolument génial. Moi, je me suis intéressée à ça pour le côté emblématique du producteur en consommateur. Pour le côté, moi, ça me fait penser aux Indiens. On va dans la forêt chasser un animal, on va le manger immédiatement sur place. J'ai l'impression qu'on ne perd pas de temps. Il y a quelque chose de avec un bon sens paysan qui me saute aux yeux.
Alors, nous avons donc à la fois Philippe Baran, qui va bien sûr aussi intervenir sur ce sujet que vous avez déjà entendu, et puis donc ici dans ce studio, nous avons Anne Penalba, qui est présidente de France Hydroélectricité, qui est donc un syndicat professionnel qui regroupe plus de 500 centrales aujourd'hui. Alors, faisons un petit point avec vous, Anne Penalba. Donc, vous êtes productrice, enfin, vous représentez bien sûr les producteurs d'hydroélectricité. On a bien compris qu'il y avait quand même un vaste panel, parce qu'il y a aussi bien des amoureux de leur moulin qui vont turbiner et qui veulent avoir, mettons, un seuil, comme on dit, assez étal, et qui ne veulent pas qu'on touche à leur patrimoine, ça s'entend tout à fait. Et puis d'autres professionnels qui vraiment, c'est complètement leur métier. Alors, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui? Et puis aussi, ce qu'on a entendu donc, de la part de Guy Pustelnik, d'accord, on turbine, mais attention aux rivières et donc attention à la qualité écologique.
Bonjour Denis. Oui, effectivement, la petite hydroélectricité, je crois, je vais reprendre la très très belle expression de Jérôme, c'est on est dans la mémoire des pas d'un certain nombre de générations qui avons, nous, à transformer cette force motrice de l'eau. Alors à l'époque et depuis fort longtemps, on peut remonter à l'Antiquité.
Je crois qu'il y a des barrages qui ont 1000 ans.
Absolument, il y a des barrages qui ont 1000 ans, il y a des barrages qui sont installés depuis très longtemps. On utilise cette force motrice de l'eau, c'était une force mécanique à ce moment-là, ça actionnait un certain nombre d'industries et les riverains, les gens qui vivent au bord des rivières connaissent ça très très bien parce que ça fait partie du paysage. Donc on s'inscrit complètement dans cette tradition de l'utilisation de cette force motrice. Aujourd'hui, on en fait donc de l'électricité, c'est une nouvelle forme d'énergie. Et c'est vrai qu'en termes de... Alors aujourd'hui, la petite hydro, ça représente donc 7 milliards de kilowattheures, hein, 7 terawattheures. Oui. Ça alimente, pour avoir une comparaison, et Philippe Baran l'a cité très très bien tout à l'heure, ça alimente par exemple la ville de Lyon et de Toulouse quand même. C'est en termes de marginalité, je crois qu'on a largement dépassé la limite.
Sur le cumul, c'est ça.
Sur le cumul, d'accord. Les 7 milliards de kilowattheures, ça alimente ces deux villes-là, bon, qui sont très emblématiques du point de vue de l'hydroélectricité. Et puis... quand on se place du point de vue de la petite centrale elle-même, c'est jamais marginal. C'est-à-dire qu'une petite centrale de 50 kilowatts qui va alimenter un hameau et qui va éviter qu'on tire des lignes très conséquentes...
Non, mais est-ce que vous êtes obligé de le revendre à EDF ou bien est-ce que l'on peut l'utiliser? Parce qu'aujourd'hui, lorsque l'on a une éolienne ou bien un panneau solaire, on est obligé par la loi de le revendre. Un jour ou l'autre, on va arriver à pouvoir la consommer sur place. Et là, ça devait être intelligent.
Je crois que ça revient au même, parce que même si elle est revendue à EDF, elle est consommée sur place. Moi, c'est un faux problème, ça. C'est l'histoire de gros sous, de vendre ou de revendre. Mais quand une turbine tourne dans un village et qu'elle allume immédiatement l'ampoule de la personne qui habite à côté, moi, je crois que vendre ou pas revendre, ça va directement par un fil très, très court de la turbine à l'ampoule.
Philippe Baran, sur ce sujet, justement, donc, est-ce que là aussi, est-ce qu'on a de la perte en ligne ? Est-ce que l'on comprenne bien ?
Alors oui, c'est quand même pas du direct. Hein. On est dans un réseau électrique qui est géré avec plein de situations. Donc le côté très proximité, non, c'est pas malheureusement vis-à-vis de l'ensemble des productions électriques. Non, ça rentre dans un réseau, un très grand réseau qui a des systèmes de régulation complexes. Où en effet l'hydroélectricité à deux échelles joue un rôle clé. Elle joue surtout un énorme rôle clé. Mais ça, c'est pas les petites centrales qui le font, ce sont les grands barrages qui font les pointes, qui assurent les pointes d'électricité. En lâchant rapidement de l'eau, et ça c'est très important dans la régulation du système, mais là c'est pas du tout les petites centrales, hein, ce sont les très grands barrages qui réalisent cette fonction essentielle, avec malheureusement une dérive actuelle dont je pense on reparlera pour d'autres usages de l'eau. Et puis ensuite, en effet, certaines petites centrales viennent réguler des parties de réseau dans des baisses potentielles de tension pour gérer cette situation. Mais le réseau, l'ensemble du réseau EDF, RDF maintenant, est quand même relativement complexe en termes de gestion, et c'est pas du tout un réseau géré sur la base de la proximité, même si il y a des unités de production réparties à travers l'espace.
Alors Anne Penalba, aujourd'hui, comment on peut arriver à concilier ? On a bien compris que c'est des histoires de points d'équilibre entre les fabricants d'énergie, cette énergie donc au fil de l'eau, et puis le bon état aussi écologique des rivières. On a une directive européenne qui nous le dit bien, qu'il faut essayer d'arriver au bon état écologique des rivières d'ici 2015. Bon, on n'y sera pas, si on avait à peu près compris, mais quand même. Et puis le développement aussi des énergies renouvelables. Donc comment on fait ? Parce que vous, votre boulot, votre intérêt, c'est quand même de turbiner. Quoi, donc.
Ah non, moi, mon boulot, c'est de faire bien.
Oui, certainement.
C'est de bien turbiner. Alors, d'une part, juste une précision en termes de réseau. L'immense majorité de la petite hydro délivre sur le réseau de RDF, donc en moins de 20 000 volts. On est vraiment sur du local quand même. Hein. On n'utilise quasiment pas le grand réseau RTE, ce qui est quand même une vertu à tout point de vue.
Mais je pense aussi quelque chose qui persiste et signe dans ce que vous êtes en train de dire, c'est la majoration de qualité. J'ai entendu quelque chose que quand on turbinait bien et qu'on turbinait de façon régulière pour justement réguler dans les villages, on était mieux payé. Il y a la majoration de qualité. Donc c'est extrêmement important pour le réseau ERDF, parce que ça, je l'ai entendu dire donc dans mon village par des gens qui travaillent là-dessus. Il est extrêmement important que les petites centrales, la petite hydroélectricité, régule dans les petits villages. Alors, justement, on est mieux payé quand on
turbine. Turbiner mieux, Anne Penalba, qu'est-ce que ça veut dire ? Quels sont les conseils et comment vous soutenez donc vos producteurs d'énergie ?
Alors, turbiner mieux, ça veut dire justement ne pas avoir à faire d'arbitrage entre la production de renouvelables et la qualité des milieux aquatiques. Aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on a les moyens de faire les deux. On travaille avec l'ONEMA, on travaille avec Philippe Baran de façon régulière depuis plusieurs années pour améliorer effectivement d'une part le parc existant et pour mieux concevoir aujourd'hui une petite centrale électrique. Ça se conçoit aujourd'hui d'emblée avec un optimum énergie et environnement. C'est-à-dire qu'on ne se préoccupe pas comme on pourrait avoir ce sentiment uniquement de turbiner et de faire de l'électricité. On se préoccupe d'emblée. On sait qu'on a une matière noble dans la main. Donc l'idée, c'est vraiment de faire ça noblement et de respecter effectivement ce milieu naturel qu'est la rivière. Donc on conçoit d'emblée une centrale du point de vue de l'énergie et de l'environnement avec l'optimum qui est réalisé entre les deux. C'est-à-dire prendre le plus d'eau possible en laissant toute l'eau dans la rivière dont elle a besoin pour fonctionner. C'est-à-dire on laisse de l'eau, c'est ce fameux débit réservé que l'on laisse donc pour que les poissons puissent migrer, se déplacer, se nourrir, se reproduire. Donc on laisse ce minimum absolument absolu dans le cours d'eau pour que les poissons puissent s'épanouir comme ils le souhaitent. Et on turbine le reste. Et tout l'art de notre métier est vraiment de déterminer cet optimum entre la qualité des milieux aquatiques et l'énergie. Donc plus d'opposition. Ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, mais avec de la haute qualité environnementale.
Philippe Baran, parlez-nous de ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire le classement des rivières. Parce qu'en fait, il y a des rivières que l'on va laisser intactes et puis d'autres que l'on va classer. Je crois que c'est une catégorie 2 où là, on commence déjà à arbitrer. Puis après, il y a toutes les autres rivières. Racontez-nous, parce que ça, c'est extrêmement déterminant.
Oui, tout à fait. C'est vrai qu'on s'est engagé dans cette politique de classement pour ben justement faire cet arbitrage entre des aspects environnementaux, des aspects énergie, à l'échelle d'un territoire, c'est-à-dire à aboutir à un partage de la ressource. Donc comme l'a dit Anne Penalba, sur certains sites, on fait des efforts pour arriver au meilleur optimum environnement et énergie. Et on a décidé donc au niveau national qu'un certain nombre de cours d'eau seront classés pour leur valeur. Guy Pulsteinig parlait de réservoirs biologiques, donc ce sont des endroits à forte valeur patrimoniale pour les espèces qui y vivent, les besoins des espèces qu'elles ont de se déplacer à l'intérieur de ces rivières.
C'était l'idée d'ailleurs de la trame bleue, hein, du Grenelle Environnement. On parle de la trame verte, mais la trame bleue, ça correspond bien aux rivières.
Voilà, la trame bleue a repris donc tout cet ensemble de classements. Et donc, dans ces cours d'eau-là, bientôt, on ne pourra pas construire de nouveaux ouvrages, quels qu'ils soient. Hein. Ça ne concerne pas que les ouvrages hydroélectriques. On ne pourra plus en construire pour essayer de préserver ces zones. Alors, je dis tout de suite que ces zones représentent quand même quelques pourcents du linéaire des cours d'eau en France et que c'est loin d'être la totalité du réseau qui va être occupé par ce classement-là. Ensuite, on a une deuxième catégorie, ce sont des rivières où il y a déjà un certain nombre de seuils, où il y a déjà des installations hydroélectriques, et sur ces endroits, on va essayer de faire en sorte qu'on arrive vraiment à la meilleure situation, notamment vis-à-vis de la circulation des poissons, hein, notamment des poissons migrateurs qui vont de la mer à la rivière ou de la rivière à la mer, l'anguille, le saumon, par exemple. Et là, c'est vrai qu'il va y avoir un certain nombre d'obligations pour tous les ouvrages d'essayer d'assurer une forme de transparence de migration pour les poissons, tant quand ils vont monter que quand ils vont redescendre la rivière, puis également pour les sédiments. Donc sur ces deux endroits de territoire, on a vraiment un certain nombre d'obligations. Puis après, il y a tout le reste du territoire qui n'est pas classé, dans lequel il y a des potentialités d'installation, d'ouvrages avec des contraintes environnementales qui seront un petit peu moins élevées. Donc il y a un partage territorial qui s'est mis en œuvre pour essayer aussi d'aboutir à ce point d'équilibre.
On pourrait se dire comment on classe le moins pour pouvoir installer le plus. Ça peut être ça. Je ne dis pas que c'est le raisonnement d'Anne Penalba, c'est pas ça, mais parfois il y a un peu de ça. C'est-à-dire qu'il va y avoir obligatoirement il y a du lobbying entre qu'est-ce que je classe, qu'est-ce que je ne classe pas, et au final ce sera le préfet donc qui va décider, qui classe ou...
Tout à fait. Enfin, ça passe par différentes instances. C'est à l'échelle des bassins, hein, des bassins hydrographiques. Et là, c'est le préfet de bassin qui, au final, donc, aura un arrêté qui donnera la liste des classements. Évidemment que, selon les intérêts des différentes protagonistes, eh ben, il y a des débats, il y a des discussions pour aboutir à un meilleur compromis possible sur ces sujets. C'est sûr et certain qu'il y a un certain nombre de cours d'eau classés sans possibilité de construire des barrages qui présentent encore des potentiels.
Juste un mot, Philippe Barran, justement, on pourrait se dire, c'est peut-être en montagne qu'il y a le plus de possibilités, de potentiel. Et en fait, non, quand on regarde les chiffres.
Alors oui, la montagne, c'est vrai qu'avec du dénivelé très important, hein, puisque la puissance d'une centrale, c'est le débit par la chute qu'on peut prendre. Donc quand vous avez tout de suite quelques centaines de mètres de chute en allant chercher en haute altitude de l'eau et en la turbinant en bas, le potentiel électrique est très important. Ce qu'il faut voir pour nos rivières de montagne des Pyrénées ou des Alpes, c'est qu'elles sont déjà très équipées. Dans les Pyrénées, on a tout au plus une dizaine de pourcents de rivières qui ne sont pas équipées de centrales hydroélectriques. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a un choix. Certes, il y a un potentiel, mais est-ce qu'on utilise ces 10 derniers pourcents en totalité? Et dans ce cas-là, nous n'aurons plus de rivières à morphologie peu ou pas modifiée. Donc voilà, donc c'est pas forcément dans ces secteurs-là que les potentialités de développement hydroélectrique nécessaires sont environnementalement parlant les plus intéressants. Puis c'est des incursions quand même dans le milieu montagnard. Quand vous construisez une prise d'eau à 1500 mètres d'altitude, c'est des pistes, c'est des choses. Enfin bon, voilà. Donc il y a tout un environnement aussi autour de ça. L'installation d'une conduite hydroélectrique le long d'un flanc de montagne, je ne sais pas si ça plairait beaucoup aux Indiens d'Amazonie. Quoi, avec les bulldozers, c'est quand même pas... C'est pas de la proximité.
Et qui sont menacés
non,
en plus
ça,
par...
Ça, je vous affirme, ça ne leur plairait pas du tout. Voilà. Et je ne pense pas que ça plaise en France non plus. Mais moi, j'ai amené le sujet de la petite hydro ancestrale, celle que les barrages sont là, je vous le disais tout à l'heure, ils sont là depuis 1000 ans.
Et puis il y a beaucoup d'affectifs hein, chez les gens qui ont des moulins.
Mais
qui
évidemment,
nous entendent,
évidemment, c'est une passion. Moi, oui, je vois des gens, mais c'est extraordinaire de voir comment ils se relèvent la nuit dans un mètre de neige pour faire bien travailler l'installation.
Mais il faut laisser passer les sédiments et les poissons aussi.
Bien évidemment.
On a 60 60 000 seuils, comme on dit aujourd'hui. Alors, ça ne veut pas dire que les 60 000 seuils sont équipés, loin de là.
Non, loin de là. Il y a des seuils absolument de toute nature qui concernent absolument toutes les activités qui ont pu se faire ou se font encore sur les rivières aujourd'hui. La Petite Hydro, c'est 1800 ouvrages sur ces 60 000. Donc, effectivement, ça permet de relativiser un petit peu les chiffres. Je rassure Philippe, quand on construit une conduite forcée, quand on pose une conduite forcée aujourd'hui, il y a des techniques beaucoup moins invasives que celles qu'il vient de citer là. On sait faire vraiment sans dégâts aujourd'hui. J'étais encore il n'y a pas très longtemps sur des nouvelles centrales qui viennent d'être construites dans les Hautes-Alpes où on a réutilisé une ancienne galerie pour passer 3000 mètres de conduite, où on a posé les choses par des rotations d'hélicoptères et posé les choses sans dégâts et sans couper des arbres. On sait faire maintenant très bien. Et Dieu merci, effectivement, les tenants des milieux aquatiques nous ont poussés à améliorer les techniques, à la fois les techniques de chantier et à la fois les matériels, comme disait M. Pustelnik tout à l'heure, les nouvelles turbines, effectivement, qui
découpent pas les poissons rondelles, forcément.
Voilà,
ce qu'il y a toujours, c'est l'entretien. En fait, là où on a vu que ça posait problème, et même franchement avec EDF, c'est aussi l'entretien. Alors ça, c'est pas votre boulot, hein, on est bien d'accord.
L'entretien
des passes à poissons et des remontées, des échelles.
C'est notre boulot aussi, et on le fait bien. Une fois qu'on a construit une passe à poissons, ça n'aurait pas de sens, effectivement, de la laisser pas efficace.
Nous passons de la passe à poissons au lynx, tout de suite. Juste un tout petit mot avant d'envoyer le reportage. Dites-nous tout. Donc, cet amour du lynx.
Pareil, c'est dans le Jura, c'est dans ce même village dont je parle depuis tout à l'heure. Et j'ai la chance donc de voir, non pas le lynx encore, mais peut-être qu'un jour il viendra me saluer. Mais il y en a dans ce massif.
Alors,
du Jura.
Il va venir vous saluer avec Patrice Redley, qui est photographe, écrivain, naturaliste. On est dans la région que vous connaissez, des lacs du Jura, 1100 mètres d'altitude. Le pic de l'Aigle n'est pas loin. On est dans un pays de combes, de reculés, de montagnes boisées. On est en limite du parc naturel régional du Haut-Jura et on va découvrir le lynx.
Son milieu de prédilection, c'est le massif forestier. Il a besoin de toutes ces zones un petit peu fermées pour pouvoir vivre et chasser. C'est un bon sprinter qui peut aller assez vite. Par contre, il a un petit cœur, donc il ne peut pas poursuivre son effort très longtemps.
C'est pas un marathonien, quoi. Hein. Il pique des sprints, mais c'est tout, quoi.
Voilà, c'est un petit sprinter. Et puis, a priori, quand il a loupé sa proie, il ne court pas au-delà de 40-50 mètres derrière parce que de toute façon, il sait qu'il ne la rattrapera pas. Dans cette période de fort enneigement, il va rechercher, comme on voit en face de nous, des zones rocheuses pour aller s'abriter et se mettre à l'abri des intempéries en journée. Il va redescendre dans la rivière ou en lisière forestière pour essayer de chasser un chevreuil. Et puis, le temps qu'il va exploiter le chevreuil, il va rester juste en face de nous, là, dans cette zone rocheuse. Oui. Et il redescendra régulièrement pour exploiter sa proie.
Si on aime bien les photos de lynx, hein, que l'on retrouve bien sûr dans vos différents ouvrages, Patrice Redley, c'est parce que c'est un gros chat, d'accord, mais avec quand même des canines bien acérées. Et puis, il y a les fameux petits toupets au sommet des oreilles. À quoi ça sert, ces toupets?
Alors, les toupets qu'on appelle des pinceaux, ce sont des petites touffes de poils de 3, 4, 5 cm qui sont placées au-dessus des oreilles.
Ouais.
L'hypothèse scientifique la plus plausible serait que ça serve d'antenne. Dans un milieu forestier où le lynx a besoin de connaître un petit peu ce qui se passe au niveau auditif, ça permettrait de faire comme des petites paraboles qui dirigeraient le son vers l'intérieur des oreilles.
Alors, il a un odorat incroyable. Il doit aussi avoir une vue quand même qui n'est pas trop mauvaise.
Il a une vue mais qui n'est pas du tout ce qu'on a décrit depuis l'Antiquité. Avoir des yeux de lynx, ce n'est pas vraiment ce qu'on pense.
Alors,
mais par contre, il a une très bonne vue dans la pénombre. Comme il a des pics d'activité qui sont plus élevés à l'aube, au crépuscule et à une certaine partie de la nuit, il est adapté pour chasser dans cette période de clair-obscur.
Ah, okay.
Par contre, son odorat, il ne s'en sert pas vraiment pour la chasse, mais plutôt pour les contacts entre individus grâce aux marquages qu'ils peuvent faire sur leur territoire. C'est plutôt pour rechercher justement les marquages, les dépôts d'urine des autres individus, mais pas pour la chasse.
Alors cet animal, à mon avis, ne doit pas forcément écouter les conseils qui consistent à manger 5 légumes et 5 fruits par jour. Quel est son régime alimentaire?
Il est exclusivement carnivore. Dans le Jura, c'est à peu près 90% de chevreuils et de chamois. Le reste, ça peut être des lièvres, des renards.
Non, ça enfonce pas trop, là, ça fait encore. Pas quand même, jusque...
Je l'ai un petit peu, là, il fait doux encore ce matin, mais il y a 15 jours, j'ai essayé de couper des pistes avec un ami dans le Houdou. Au petit matin, on avait une belle journée comme ça, ensoleillée. Par contre, il faisait moins 32. Donc, comme on dit chez nous, ça piquait un petit peu.
Là, je vous laisse faire parce qu'on voit quand même des traces un peu partout. Bon, là, c'est manifestement pas des traces de lynx, mais qu'est-ce que c'est, ça?
A priori, c'est du chevreuil.
Ouais.
C'est un bon exemple puisque ça correspond tout à fait au milieu de chasse du lynx. Donc là, on arrive dans une petite clairière au milieu de la forêt.
Ouais.
Et on voit que le chevreuil, la piste de chevreuil, suit la lisière du bois. C'est exactement où le lynx se place pour chasser. Il va essayer de se planquer par là pour tendre une embuscade, justement, lorsque les chevreuils sortent du bois pour aller pâturer dans la clairière. Ouais. C'est là, en principe, que le lynx va déclencher son attaque.
Comment il signe son crime lorsque l'institut médico-légal donc arrive pour dire « Attendez, là, c'est un lynx » ou bien, je sais pas, « C'est un chien errant », etc. Il y a vraiment la signature du lynx ?
Il y a la signature du lynx, mais qui ne se voit pas forcément extérieurement, je dirais, sur le corps de la victime. Ouais. Donc pour cela, il faut faire une expertise. On coupe au niveau de la gorge, on sépare en deux la peau du cou.
Ouais, j'aurais pas dû vous lancer parce que là, on est un samedi après-midi. Enfin oui, d'accord, continuez quand même.
Qu'on écarte, qu'on dispose comme ça, et il suffit de mesurer l'écartement des canines et le diamètre des canines pour avoir vraiment la signature du lynx.
Oui, donc c'est quand même les canines qui sont évidemment dans le cou, quoi.
Tout à fait, parce que comme tous les félins, la plupart des grands félins, le lynx tue les grosses proies par étouffement, donc il les attrape au niveau de la gorge et il étouffe ses proies.
Alors, petite clairière, scintillement de la neige, la poudreuse.
Ah, là, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose, on va peut-être se rapprocher pour voir les traces. Voilà, regardez, il est passé par là.
Waouh, d'accord.
Donc là, on voit la, voilà, elle est assez bien faite, une belle trace de lynx, donc c'est à peu près... Grosso modo, ça tient dans un cercle de 9 à 10 cm de diamètre.
C'est-à-dire qu'c'est à peu près les traces de mon chat, mais en XXL, quoi.
Voilà, tout à fait. Donc là, on voit un petit peu les pelotes digitales en forme d'olive,
oui,
qui sont complètement décentrées. C'est pas une trace bien faite. Et puis là, on voit qu'il a marché dans de la neige un petit peu givrée, puisqu'on devine, c'est un petit peu en avant des pelotes plantaires, on devine les traces de griffes. Dans certaines conditions, le lynx marche avec les griffes sorties justement pour mieux se cramponner le sol. Là, on a peut-être une chance sur ce être de voir des traces de griffes. Donc ça, c'est aussi, c'est aussi une façon pour le lynx de marquer son territoire, de marquer son passage. En griffant un arbre comme il l'a fait ici, il laisse des traces visuelles, mais également des traces olfactives. Puisqu'il a son odeur sous les pelotes plantaires qui va frotter contre le tronc du hêtre. Il y a un respect du territoire du lynx, c'est pour ça que la plus grande difficulté du jeune lynx...
C'est de trouver un territoire.
C'est de trouver un territoire vacant, puisque dès qu'il y a un territoire occupé, il doit aller au-delà de cette zone occupée.
Histoire de lynx avec Patrice Redley dans le Jura, qui vient de signer un très bel ouvrage, Le Massif Jurassien. Rencontre animale, c'est aux éditions du Belvédère. Alors sur chaque sujet, on pourrait dire beaucoup de choses. Tout à l'heure, on était un petit peu vite. C'est vrai que lorsque vous produisez votre électricité, vous pouvez bien sûr, si vous êtes particulier, l'utiliser donc vous-même. Peut-être pour terminer avec vous, bien sûr, Jérôme Pasteur, donc Femme Oiseau, donc ce roman chez Belfond. Mais par rapport à l'écologie en général, vous souhaitiez dire deux mots?
D'abord, je vais vous remercier pour votre émission, Denis, parce que tous les sujets que vous traitez, c'est vraiment essentiel. Et puis attention à tous, attention à la santé mentale de nos concitoyens. Il ne faut pas s'y perdre dans l'écologie. Moi, j'ai envie de dire attention au fanatisme, attention au Robespierre de l'écologie. Dès qu'on respire un bol d'air, bien sûr, peut-être un de ces jours, on va être bon pour la guillotine. C'est pas bon, ça. Les gens s'y perdent. Les gens ne savent plus à quel sens vouer. Ils n'arrivent même plus à avoir une réflexion propre et se servir de ce merveilleux cadeau qu'est le libre arbitre. J'ai l'impression que dans beaucoup de débats, on parle beaucoup d'un des aspects et pas beaucoup de l'autre. Je crois que maintenant, il faut arrêter de jouer aux gamins. Il faut avoir des chiffres vrais, il faut avoir des opinions de tous bords. Il faut arrêter de mettre en première ligne son ego. parce qu'on est quand même pratiquement en situation de survie, je dirais. L'être humain, bon, la Terre, elle va s'en sortir. Mais nous, c'est de l'homme dont on parle. Il ne faut pas extraire l'homme de l'écologie, l'homme de son environnement. Alors, pensons juste, pensons avec une écologie de cœur, une écologie de l'individu, du libre arbitre, et surtout avec de vraies informations, de vrais débats. Et zébats,
pourquoi pas.
Allons-nous ébattre.
Merci beaucoup.
Tous ensemble.
Jérôme Pasteur pour ses paroles. Un grand merci à Christophe Imbert, notre réalisateur, à Stéphane Combe, Pierre-Yves Consigny, Guillaume Roux et la technique, Anne Gouzon a nourri les sites. L'atelier du Bon Petit Loup, ce sera demain à 19h55. Allez, pub.